Cet après-midi, sur Espace 2, nous essayons de voir comment des chrétiens entichés de la résurrection de Jésus disent et vivent leurs convictions en relation avec cet extraordinaire levé au cœur de leur foi. Et c'est incontestable que cet extraordinaire n'est pas sans poser question aux non-chrétiens comme aux chrétiens d'ailleurs. Alors, nous avons souhaité mettre sur la sellette deux théologiens qui développent une compréhension de la résurrection où l'historicité de cet extraordinaire est soulignée. Sur la sellette, Henri Blecher, professeur de théologie systématique à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, en région parisienne, puis un spécialiste du dialogue interreligieux, le pasteur Shafik Keshavji. Parce que, on le perçoit bien, dire « Dieu est intervenu dans l'histoire pour rappeler Jésus de Nazareth de la mort à la vie », c'est aussi dire que le Créateur de toutes choses entretient une relation particulière et originale avec ce charpentier de Palestine.
Je vous ai transmis l'enseignement que j'ai reçu, celui qui est le plus important. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été enterré et il est revenu à la vie le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Et pourtant, je suis comme un être né prématurément. Je suis en effet le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce de Dieu qu'il m'a faite n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas moi en réalité, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi que cela vienne de moi ou d'eux, voilà ce que nous prêchons. Voilà ce que vous avez cru. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15.
L'expérience quotidienne nous le rappelle constamment, on ne revient pas du trépas. Lorsque la mort a frappé, c'est la fin. Alors, comment dans un monde marqué par l'expérimentable en matière scientifique, peut-on croire à la résurrection de Jésus, Henri Blecher?
Jésus lui-même, lorsqu'il a répliqué sur le sujet de la résurrection à des théologiens, ce n'était pas des scientifiques, c'est sûr, mais quand même, il représentait la science du temps qui niait la résurrection, alors la résurrection finale. Les Sadducéens de son peuple, leur a dit « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ignorez les Écritures et la puissance de Dieu. Vous n'imaginez une résurrection que sous les formes de la vie présente, sans transposition. Alors vous tombez bien sûr dans des absurdités que vous dénoncez. Mais la résurrection représente une telle transposition suspendue à la puissance créatrice de Dieu » que ces problèmes ne se posent pas. Voilà comment Jésus a répondu. Et je serais porté à faire la même réponse dans les conditions de notre vie présente, à coup sûr, pas de résurrection. C'est voué à la mort que nous sommes. Mais s'il y a un Dieu qui est créateur, c'est la moindre des choses que de lui accorder au moins la possibilité de dépasser les limites que nous constatons comme celles de notre expérience quotidienne. Si l'on refuse cette option, je me demande sur la base de quoi on la refuse, à partir de quelle assurance on peut exclure cela comme le don futur de Dieu, et si on l'accepte, alors la difficulté disparaît. Mais ça demeure un mystère, c'est-à-dire que nous n'en démentons pas le comment, mais nous n'avons pas lieu de refuser notre foi.
Des spécialistes du Nouveau Testament, tout comme des sceptiques, affirment que les premiers témoins de la résurrection ont été victimes d'hallucinations ou d'autosuggestions. Le point de vue d'Henri Blocher.
Il ne me semble pas que l'hypothèse corresponde aux données que nous avons dans les évangiles ou dans le livre des actes, principalement aussi dans la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, par exemple. D'après ces témoignages, ce n'était pas de l'autosuggestion, ils ont résisté très fortement à l'évidence des premières apparitions. Il a fallu que Jésus-Christ donne des preuves de son identité, qu'il se fasse reconnaître par des gestes particuliers ou des paroles, pour qu'il vienne alors à reconnaître que c'était bien lui. Donc, c'est tout le contraire de l'autosuggestion. Ils étaient là, bien sûr, déçus, amers. Ils se préparaient à reprendre leur vieux métier de pêcheurs pour la plupart. Et c'est la vision du Christ qui les a rencontrés, qui a changé leur motivation entière. Au plan psychologique, on ne s'explique guère leur revirement, l'assurance qu'ils ont tout à coup prise, si c'était de l'autosuggestion. Ça, c'est un aspect qu'on peut faire valoir. Un autre aspect concerne le mélange des apparitions aux individus et au groupe. Donc, si l'on parle d'hallucination collective, on ne rend pas compte de ces apparitions aux individus. Et puis alors, il y a un point qui me paraît très, très, très important. On ne réussit pas à sortir de l'alternative, ou bien du faux témoignage, ou bien d'une réalité telle que la foi chrétienne traditionnellement l'a affirmée. Il n'y a pas seulement le récit et le témoignage de vision. Les apôtres attestent qu'ils ont mangé et bu avec Jésus ressuscité. L'apôtre Pierre le dit très clairement dans son discours rapporté au chapitre 10 du livre des Actes. Il nous est rapporté que Jésus leur a livré des enseignements systématiques sur le royaume de Dieu pendant le temps où il les a rencontrés. Nous avons l'épisode des disciples d'Emmaüs où il fait route avec deux d'entre eux et avant de se faire reconnaître, leur donne une longue explication de la portée des textes prophétiques à son sujet. Ou bien tout cela a été inventé du faux témoignage, puisque c'est présenté comme un témoignage, et ils ont été jusqu'au martyre pour en sceller la véracité. Ou bien, il nous faut dire que nous sommes très loin de simples visions qu'on pourrait à la rigueur interpréter comme des hallucinations collectives.
Depuis toujours, il y a débat sur ce qui est historique dans cette affaire de résurrection. La naissance d'une communauté religieuse qui va s'appeler chrétienne, le retournement d'un groupe déboussolé par la mise à mort de son chef, le tombeau vide, l'opinion d'Henri Blocher.
Ce qui bien sûr m'importe suprêmement, c'est le fait même de la résurrection, que Jésus-Christ et Jésus-Christ homme n'est pas resté mort, et que dans son corps même, il a accédé à une vie nouvelle, que son corps ne s'est pas décomposé dans le tombeau, que Jésus-Christ, homme, est vivant et corporellement vivant, comme il nous est promis de l'être lors de la résurrection finale, aujourd'hui. C'est cela qui importe suprêmement. Mais pour donner sa pleine densité de fait et non pas d'imagination humaine même pieuse à ce fait fondamental, je crois qu'il est utile de maintenir qu'effectivement le tombeau où on l'avait déposé s'est trouvé vide, qu'il y aurait eu incompatibilité entre la présence du cadavre de ce Jésus toujours et puis son apparition comme le ressuscité. On n'aurait pas vraiment pu parler alors de résurrection. Le tombeau vide est le signe qui atteste du caractère pleinement concret de cette résurrection, qui est la clé de voûte de la foi chrétienne.
La recherche de certains théologiens tente de prouver la dimension historique de la résurrection. Henri Blocher.
Ce qui est en cause, c'est le rôle des présupposés du cadre général de la vision du monde, de l'historien, lorsqu'il aborde les témoignages et traces d'un événement ancien. Si l'historien aborde les témoignages concernant la résurrection de Jésus avec la certitude au fond de lui que ça ne peut pas arriver. S'il a une vision matérialiste du monde, par exemple, qui exclut d'avance la possibilité d'un Dieu transcendant, d'un Dieu vraiment digne de ce nom, qui intervienne, alors il ne croira pas les témoignages. Il aura toujours le moyen de dire « non, c'est pas possible, donc ils ont dû inventer, donc ils ont dû être hallucinés ». Tout dépend du cadre qu'on apporte. Mais je plaide que si quelqu'un réussit à mettre jusqu'à un certain point, entre parenthèses, des a priori défavorables, il pourra affronter des témoignages d'une grande force que par rapport à d'autres événements historiques du passé, si l'on laisse ouverte la possibilité que Dieu ressuscite les morts et un tel mort, par rapport à des événements anciens, nous avons un événement fort bien attesté. Les témoins sont nombreux, leurs témoignages se recoupent, ils sont crédibles à la fois par leur proximité de ce qui s'est passé et par leur comportement ultérieur, par leur caractère général. Donc nous avons, si l'on prend le dossier tel qu'un historien en instruit sur d'autres événements, ou même un juge d'instruction traitant d'un fait à établir, si on prend les témoignages de cette façon, je dis qu'il y a un dossier très fort. Je pense que c'est au contraire cette valeur de fait historique déterminant de la résurrection de Jésus-Christ qui fait du message chrétien un évangile, une nouvelle et autre chose donc qu'une religion de plus. Il ne s'agit ni d'une morale ni d'une religion. Il y a, si vous voulez, une morale et une religion qui sont impliquées, rattachées. Mais c'est d'abord une nouvelle, c'est arrivé. Dieu a agi. C'est à cela que s'accroche toute l'originalité du christianisme entre toutes les religions, entre toutes les sagesses. Et donc, c'est pour moi infiniment précieux, c'est central.
S'il fallait donner tout l'évangile pour une seule scène où il soit tout entier résumé, je n'hésiterai guère. Je désignerai les disciples d'Emmaüs. Et il se peut que cela ait été l'intention de saint Luc. À un gond de son œuvre, dans cet intervalle où finissait l'histoire visible de Jésus, pour commencer sa présence invisible, de peindre une scène qui indiqua les cheminements de la foi dans les esprits, à travers des difficultés décroissantes. Ce livre-ci n'est jamais qu'une glose écrite dans les marges de ce texte ancien. Car en chaque homme instruit, de notre temps plus encore peut-être, il existe toujours deux êtres qui secrètement discutent sur Jésus. Deux personnes causent sur une route. Elles s'entretiennent de ce qui est toujours si visible en ce monde. L'échec des fondateurs, les apparences contraires, la déception, les promesses non tenues. Et en particulier, l'absurdité du mouvement de Jésus qui n'a pas abouti et qui est la preuve que l'espérance n'a plus lieu d'être. Les raisons plausibles de douter ne manquent pas, elles se redoublent, car chaque disciple ajoute ses difficultés de croire à celles de l'autre. Et pendant qu'ils parlent, le problème dont ils parlent chemine avec eux. Il se place au centre de leur être sous forme d'une ardeur à apprendre. Ils l'écoutent, sans y adhérer, mais avec condescendance et pour se convaincre encore une fois, par la défaite de mes raisons, que cette question est à jamais insoluble. Mais Luc fait voir la renaissance de la lumière dans la profondeur de l'ombre. Au moment où le jour matériel décline, c'est une aurore pour l'esprit. Le mystère soudain présent, incompréhensible, quoique non impensable, se propose sous plusieurs espèces. Sentiment de présence, illumination du passé et des écrits sur ce passé, témoignage donné sur la personne par la personne même, société créée entre les consciences par ce partage, familiarité énigmatique et tendre, rite mystérieux. Puis l'éternel disparaît dans l'instant où l'on aurait le plus besoin qu'il demeure encore. Après quoi, il n'y a plus dans le temps que des restes, c'est-à-dire des souvenirs à revivre, des récits à raconter, des symboles à formuler, des absences à supporter, des témoignages à porter, des fondations qu'il faudra bien qu'on fasse, puisqu'il y a de la durée à remplir, puisque le temps continue, ce temps dont on sait bien, pour l'avoir éprouvé en un moment de plénitude, qu'il est déjà inséminé par un être éternel. Jean Guiton, Jésus.